Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Le commentaire de
Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
Bonjour, Monsieur Martineau.
Bonjour, Mario.
Alors, tu veux me parler de la boutique Le Château?
C'est fini. Il a mis la clé dans la porte. Alors, écoute,
où tu vas aller quand tu vas vouloir t'habiller chic, toi?
C'est ça que je pose comme question. Est-ce que c'est la COVID? Moi, je connais pas grand monde qui allait encore s'acheter au
Château. Oh, non, mais il y a une clientèle, vraiment. Le Château s'adresse vraiment, là, je le sais, chez nous, les jeunes qui veulent s'habiller chic parce que tu peux t'habiller chic pour un soir, là. Tu sais, mettons, toi, tu t'achètes un veston, là, tu vis en veston, toi. Tu sais, si on te dit le veston, il durera pas longtemps, tu vas dire, ah, il m'intéresse plus, là, tu sais. Mais, mettons, t'as 18, 19 ans, pis t'es invité pour le 50e de grand-papa, grand-maman, ça te prend un veston, là. Si tu te dis ton veston, il sera pas beau longtemps, d'après moi, tu dors pareil, là, tu sais. Tu dis, ah, je vais-tu le remettre un jour, peut-être une fois par année.
C'est un peu mal coupé aussi, parce que des fois, c'est un peu mal coupé aussi, le château. Pis ça. Mais moi, je pensais que Zara avait vraiment remplacé le château.
Wow, Zara, c'est cher, là.
Zara, HMV, tout ça, là.
Ben, HMV, ta compétition.
Je veux dire H&M, là.
H&M, excuse-moi. H&M, c'est moins chic, là. Château, ça avait quand même une prétention. Le linge est chic, là. Il y a un look chic. Il n'est pas durable, peut-être, mais il est chic.
Ben écoute, mort, mais t'as vu les chiffres, heureusement.
J'en ai pas
quand
que je suis en train de te donner un briefing en vêtements pour jeunes. Ouais. T'es bien, hein?
Écoute, non, t'as vu les chiffres entre février et avril, le taux de chômage au Québec est passé de 4,5% à 17%. On a perdu 820 000 emplois. Heureusement, cet été, ça a l'air que les chiffres, là, se sont améliorés, là, puis bon, on a recréé des emplois. Mais on regarde ça. Écoute, j'ai lu, là, aux États-Unis, ils sont rendus, on parle de troisième vague aux États-Unis. J'ai lu ça aujourd'hui. On dit que la deuxième vague mérite d'être plus, risque d'être encore plus grave que la première. On voit ce qui s'est passé à Québec. Le ton était assez alarmiste à 13h. Il faudrait pas que ça dure trop longtemps parce que économiquement, là, ça va être extrêmement difficile. Des jobs perdus comme ça, là, le château, c'est fini. 1400 personnes qui se retrouvent sans emploi. C'est des emplois qu'ils retrouveront pas. Là. Cette entreprise-là, elle est fermée, elle n'existera pas. Et quand tu te promènes dans le centre-ville de Montréal, les tours à bureaux vides, les commerces barricadés. Écoute, ça a l'air d'un village fantôme, littéralement.
Mais ce qui va avoir l'air fantôme tout à l'heure, parce que là, tu me parles du château, mais combien de boutiques, là, Jack & Jones, puis Vero Moda, il y en avait une troisième. Ça, c'était un groupe qui avait trois, c'est tout fermé. J'en oublie, là, mais je veux dire, juste les fermetures annoncées, mettons, dans les 5-6 derniers mois, c'est toutes des genres de boutiques, là, qu'il y en a dans tous les centres commerciaux.
Oui.
Je veux dire, quand, tout à l'heure, les centres commerciaux vont avoir du papier brun dans les fenêtres, là.
Ben, écoute, moi, j'étais allé à Détroit au lendemain de la grosse crise, là, la fermeture de toute l'industrie automobile à Détroit. J'étais allé là pour les francs-tireurs. T'avais des buildings, le haut, comme la place Ville-Marie, le placardé, là, puis avec les vitres cassées, les pigeons qui passaient à travers. Ça avait l'air vraiment d'une ville totalement fantôme. Et Montréal se promène. Je me promenais hier, là, en auto à Montréal. C'est vraiment extrêmement vide. Ah, d'ailleurs, comme vêtements au Navy, c'est pas cher.
Ouais, mais là, t'as pas de chic.
Les gens.
Là, c'est vraiment pas cher, mais t'as pas de chic.
Non, c'est la mode un peu skate.
Ouais, je te le dis, mettons, le château, c'est vraiment ça. Le jeune de 18, 17, entre 16 et 22 ans, là.
Puis un bal de graduation veut s'habiller.
Le bal, des fois, va s'habiller plus. Mais, tu sais, mais ouais, oui, pour le bal, mais n'importe quoi d'autre, là. Un 50e, les grands-parents, n'importe quoi. Un petit Noël, les parents veulent que tu t'habilles un peu. Tu vas au château. Tu t'habilles chic, pas cher.
Là, ils iront plus au château.
Non.
C'est terminé.
Et je retiens qu'ils t'appellent H&M HMV puis que tu trouves Old Navy Skate.
Oui.
Je sais pas s'il y a des jeunes qui nous écoutent qui vont être tout à fait d'accord, mais bon.
Je pense pas pour jeunes, là, Richard. J'annonce ça.
Hey, yo. Hey, Richard, parle-nous de rectitude politique.
Ben écoute, je suis très content. On dirait que les gens se réveillent, là, finalement. Là. Ça a pris un texte dans la presse là, pour faire réveiller certaines personnes. Paul Journet, journaliste de la presse, était à Radio-Canada aujourd'hui, puis il a parlé d'un professeur qui a été harcelé sur les médias sociaux, pris à partie, parce que dans son cours, écoutez, je sais même pas si je peux dire ça en ondes à Cube Radio, mais il a dit deux mots épouvantables, des mots vraiment tabous, « homme » et « femme ». Il a parlé d'hommes et de femmes et ça a choqué certains étudiants en disant, ben voyons donc, en 2020, on ne dit pas ça, hommes et femmes. Ça n'existe plus et il était l'objet d'une cabale. Et là, Paul Journet parlait de ça à la radio. Il y a un professeur aussi dans une école à Montréal-Nord, l'école Henri Bourassa, qui parlait du monologue d'Yvon Deschamps, Nigger Black, un monologue classique. Et lui aussi s'est fait ramasser, s'est fait harceler, intimider. Je pense que les gens commencent à comprendre l'étendue du problème, l'absurdité de ces crises-là, et que les gens commencent à en avoir soupé. Et j'ai l'impression, est-ce que le balancier est en train de revenir?
La rectrice de l'Université Laval,
ouais. Bout, là?
La rectrice de l'Université Laval, Mme Damour, a pris une position ferme et courageuse sur la liberté académique, hein?
Ben, tout à fait. Elle a dit, elle est pour ça, pour l'académie, oui, c'est ça, pour la liberté là-bas. Puis je pense qu'il y a vraiment eu une prise de conscience en disant, ben là, c'est allé vraiment trop loin. C'est vraiment n'importe quoi. Et, écoute, c'est en train de revenir. Puis c'était une mode. Tu sais, dans les années 60, c'est la grande mode maoïste. Les gens étaient maoïstes, tripaient sur Mao, c'est tout ça.
Mais ça, c'était très bon. Oui, c'était très bon, Mao, dans l'histoire. Là. Quand les gens adhéraient comme ça, se décrivaient comme maoïstes, là. Parce que, tu sais, tu parles de millions de morts, là. Je veux dire, les historiens... Les historiens se chicanent sur le nombre de dizaines de millions de morts que Mao a fait.
C'est pire que Staline, là. C'est pire qu'Hitler.
C'est comparable.
C'est tout, là. Et dans la Sorbonne et dans les universités dans les années 60 en France, c'était très chic de te dire maoïste. Donc, c'est écoute, ça dure, c'est des modes qui durent 5-6 ans, puis après ça, ça revient. Puis je pense que peut-être que la marée est en train de redevenir la marée basse. Heureusement, ouais. Avec leur attitude politique, j'espère.
Tu vois, j'ouvre une page en même temps là, sur des historiens, les grands sanguinaires comme Mao. On compte en dizaines de millions.
Écoute, même chez Guevara, il y a encore des jeunes qui se promènent des fois avec des t-shirts de chez Guevara, qui est bien cool, ce gars-là, là, parce qu'il avait mis sur pied des plateaux d'exécution. Et il était directeur de la Banque nationale de Cuba. Il a sacré le pays totalement sur le bord de la famine. Il était totalement nul. C'était aussi un homme extrêmement sauvage et barbare.
Tu vois, là, c'est Le Point. Je tombe sur un article, je fais une recherche, je tombe sur un article du Point qui fait une compétition entre, justement, le Pol Pot, Mao, Staline et Hitler. Puis
c'est
Mao.
La médaille d'or.
C'est Mao. On parle de 70 millions de morts en temps de paix. Le mort de la faim, mort de toutes sortes de manières par les politiques de Mao. Fait que, c'est bien d'être maoïste, non?
Oui, c'est super. Ben, c'est très cool d'être maoïste.
Incroyable. Moi, c'est des affaires qui me jettent à terre. Bon.
Dans les années 60, vraiment, là, Jean-Luc Godard, qui est un cinéaste à la mode, et tout le monde tripait, mais il était maoïste, il faisait des films en hommage à Mao. J'en ai vu une couple.
Moi, ce que j'aime le mieux dans ces thèses-là, c'est de dire, oui, mais Mao, là, c'est politique, c'est théorie, tu y avais raison, là. C'est juste dans l'exécution que ça a mal tourné. Ça a mal tourné, ça a fait des millions de morts.
Des bonnes idées dès le départ.
Ça
chirait à un moment donné.
Un petit peu dans l'application, ouais.
C'est une petite erreur, c'est tout, là.
Ouais. C'est des choses qui arrivent, ouais. Tu vas nous parler du 25e anniversaire du référendum de 95. Il va y avoir un spécial demain dans le journal là-dessus.
Oui. En passant, le sans flagornerie, mais ton texte de ce matin est très bon, très fort. J'en parlais tantôt avec Sophie, ma blonde. On n'avait jamais vu ça comme ça. J'avais jamais vu ça sous cet angle-là. Qu'on aurait peut-être perdu le référendum parce qu'on a perdu les Nordiques, mais la façon dont tu écrivais ça, ça se tient. Ça a de l'allure. Je pense que tu vas revenir là-dessus demain. Non, très bon. Mais moi, écoute, j'étais à la soirée du référendum. Télé-Québec avait couvert la soirée référendaire et je couvrais le camp du oui. J'avais un micro. J'étais dans le camp du oui. J'interviewais des gens pendant
la
soirée.
Donc, tu étais au Palais des Congrès.
J'étais là et j'étais à 5 pieds, là, vraiment à 5 pieds de Jacques Parizeau quand il a parlé du vote ethnique, l'argent, le vote ethnique. Et quand il a dit ça, là, quand c'est sorti de sa bouche, écoute, je me suis dit, OK, il vient de tuer le mouvement souverainiste. Dans le titre, il vient de le reculer de 20 ans. Ça va être extrêmement difficile maintenant de s'enlever l'étiquette de raciste. Parce qu'on peut comprendre dans les faits, là, maintenant quand on le met en contexte, vote ethnique, effectivement, les porte-paroles de groupes ethniques parlaient, mettons, le porte-parole de la communauté grecque disait aux Grecs de voter non, le porte-parole de la communauté italienne disait aux Italiens de voter non.
Mais sauf que ça n'a pas rapport.
De lancer ça dans un référendum comme ça, alors que tu perds avec une très petite marge et tu shootes ce mot-là, Écoute, heureusement que ça n'a pas viré en émeute, puis hein, tu sais, ça montre à quel point le Québec, les Québécois sont quand même très calmes. Mais moi, je l'ai vu. Et écoute, on recommence à parler, là, 25 ans plus tard, on recommence au PQ à parler d'identité grâce à la CAQ, à reparler. Ça a pris vraiment 25 ans.
Oui, parce que c'est pas juste le PQ.
On parlait de souveraineté, tu sais, ouais. Le souverainisme civique.
Mais c'est pas juste le PQ que ça a affecté, là. C'est le Québec au complet. C'est tout le lendemain. Le lendemain. L'esprit du lendemain du référendum a été endommagé par ça.
Puis on a su après, bon, on voyait les images où tu le voyais qui faisait les 100 pas. Mais toi, tu étais vraiment en première loge, là.
Mais en fait, moi, Richard.
Un verre après l'autre, un verre, puis un verre, puis un verre après l'autre. Il était imbibé, là.
Mais moi, j'étais pas dans la salle. Parce que Lucien Bouchard et moi, on avait parlé
avant.
Dit,
on avait parlé avant.
Monsieur Parizeau nous a demandé pour être sur la scène avec lui, puis on a préféré pas être là. On regardait le discours dans une salle, puisqu'il y avait une TV là, à l'étage supérieur.
Pourquoi tu voyais son état?
J'avais pas confiance. Je vais me contenter de dire ça.
OK. Mais ça a pris du temps. Il a fait énormément de mal. Et encore, toutes les accusations qu'on voit actuellement, le Québec est raciste, le Québec est fermé, le Québec est intolérant, ça vient de là encore. Ça reste encore. Il y a un écho des propos de M. Parizeau.
Mais hier ou avant-hier, on vient perdu la fin de la semaine, je recevais, surtout ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa, le prof Bernier, là, de journaliste.
Oui, Marc-André Bernier.
Qui m'a quand même dit une phrase renversante, là, parce qu'il parlait d'un de ses collègues qui, sur les réseaux sociaux, l'a vomi sur les francophones du Canada. Les Québécois francophones, les Canadiens francophones, pas important. Là. Et, ben lui, il n'y a pas d'étudiants qui se plaignent, il n'y a pas d'étudiants qui demandent son départ, il n'y a personne dans l'université qui est mal à l'aise. Et donc, Bernier me disait une phrase, mais il disait une phrase toute simple, mais en même temps, d'une brutalité terrible. Il dit, les francophones au Canada, Québécois francophones, sont les seuls sur qui on peut cracher, dont on peut parler en mal, envers qui on peut faire preuve de toute forme de discrimination, de discours, sans que ce soit sans conséquence.
Ben c'est totalement ça, nous autres.
Mais c'est épouvantable que
non, parce qu'on le mérite, parce qu'on est tellement méchant, on est tellement intolérant et raciste. Pour eux autres, tu as le droit d'insulter des racistes. Insulter des racistes, c'est pas de l'insulte. Ils l'ont mérité. C'est comme ça qu'ils nous voient. Et là, quand je dis encore, c'est des échos du discours de M. Parizeau.
Fait que l'intolérance envers les Québécois francophones, c'est un signe de tolérance.
Ben oui, parce que quand t'es intolérant envers les intolérants.
Ah, ouais.
Tu défends la tolérance parce que t'es intolérant.
C'est pas s'attaquer à une minorité, là.
Non. Soudainement, là, on est majoritaire chez nous, puis nous autres, on fait souffrir les minorités. C'est ça, l'affaire.
Tu fais mon éducation, là. Mais c'est épouvantable, c'est pareil, là.
Oui, c'est épouvantable, et on vit encore avec les lendemains de cette phrase malheureuse qu'on peut peut-être remettre dans son contexte et tout ça, mais dire que, tu sais, une soirée comme ça, quand tu viens de perdre un référendum par une petite marge de manœuvre, ça aurait pu être explosif.
C'est dur à remettre dans son contexte. Hey, Richard, je te souhaite une bonne fin de semaine. Merci.
Salut, bon week-end.
Alors, ben là, on va s'arrêter. On change un peu notre procédure habituelle parce qu'au retour de la pause, je vous le dis tout de suite, pour parler de ce texte que j'ai signé ce matin dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec sur le lien entre le départ des Nordiques quelques mois avant le référendum et le fait que les gens de Québec aient nettement moins voté pour le oui. Ça a intéressé JC, donc on sera au retour en simultané avec l'émission JC à TVA Sport dans un instant.